Jack London, Les Trois Manchots. Un feu de campement brûlait joyeusement dans la clairière. Tout à côté, un homme, à la mine réjouie, mais pourtant horrible à voir, était allongé. Cette clairière, au milieu d'un terrain boisé situé entre le remblai d'une voie ferrée et la berge d'un fleuve, tenait lieu de refuge aux vagabonds ou hobos. Mais l'homme n'appartenait point à cette corporation. Il était tombé si bas dans l'échelle sociale qu'un véritable hobo eût refusé de s'asseoir au même foyer que lui. Cet individu représentait en effet un de ces êtres hybrides, si dénués d'amour-propre que les injures n'exercent aucun effet sur eux, et si dépourvus de dignité qu'ils cherchent leur nourriture dans les boîtes à ordures. De fait, celui-ci ne payait pas de mine. On lui eût donné aussi bien 60 ans que 90. Son accoutrement eût rebuté un chiffonnier. Près de lui, sur son pardessus en loques, s'étalait son barda. Une boîte à conserve de tomates vides, noircies par la fumée, une vieille boîte à lait concentrée, toute bosselée, quelques rognures dans un morceau de papier brun, et, de toute évidence, mendiée à une boucherie, une carotte en partie écrasée par une roue de voiture, trois pommes de terre flétries et marquées de taches verdâtres, et un gâteau, entamé d'une bouchée, ramassé dans le ruisseau ainsi qu'en témoignaient des traces de boue. Une végétation pileuse extraordinaire, d'un gris sale, à l'abandon depuis des années, poussait sur sa figure. Cette barbe hirsute devait être blanche de nature, mais on était au cœur de l'été et elle n'avait depuis longtemps reçu aucune averse. Le seul endroit visible du visage donnait l'impression qu'il avait, autrefois, subi l'explosion d'une grenade. La blessure de son nez, maintenant cicatrisée, l'avait à tel point déformé qu'on n'y voyait pas d'arête. En revanche, une narine, de la dimension d'un poids, regardait la terre tandis que l'autre, assez grande pour contenir un œuf de rouge-gorge, béait vers le ciel. Un œil, de dimension normale, brun terne et tout embué, saillait, comme prêt à jaillir de son orbite. Et de sénilité, peut-être, larmoyait sans cesse. L'autre, à peine plus large que celui d'un écureuil, et aussi bizarrement luisant, s'enfonçait en oblique dans un sourcil broussailleux à l'arcade fracassée. Enfin, l'homme ne possédait plus qu'un bras. Cependant, il semblait heureux. Quand de sa main unique il se grattait machinalement les côtes, sur son visage se reflétait une sorte de plaisir sensuel. Il déplaça ses rogatons, puis tira d'une poche intérieure une fiole à médicaments, pleine d'un liquide incolore. Il la contempla, son œil brilla de plus belle et ses mouvements s'accélérèrent. Il prit la boîte de conserve, se leva, descendit le court sentier menant à la rivière et revint son récipient rempli d'une eau légèrement trouble. Ensuite, il mélangea dans la boîte à lait une partie d'eau et deux du contenu du flacon. C'était de l'alcool de pharmacie à 90 degrés, connu dans le monde du trimard sous le nom d'alki. Un bruit de pas venant du côté de la route l'alarma. Vivement, il posa la boîte à terre entre ses jambes et la couvrit de son chapeau. Un autre individu, également déguenillé, sortit de l'ombre. Le nouveau venu était énorme et pouvait avoir 50 ou 60 ans. Il débordait de graisse. Son nez bulbeux avait la grosseur et la forme d'un navet, et ses yeux bleus ressortaient comme deux globes. En mains endroits, les coutures de ses nippes cédaient sous la poussée de son embonpoint. Ses mollets retombaient sur ses chevilles, car ses bottines élastiques, distendues, n'arrivaient plus à les contenir. Lui aussi n'avait qu'un bras. À son épaule pendait un petit ballot mal ficelé et couvert de boue desséchée, souvenir de la dernière étape. Il avança avec prudence et circonspection. Rassuré par l'aspect inoffensif de l'homme assis auprès du feu, il se rapprocha de lui. « Bonjour, grand-père, » fit-il, en manière de salut, et il s'arrêta, considérant la narine de l'autre visant le ciel. « Dis donc, barbe en broussaille, comment t'y prends-tu donc pour empêcher la rosée de tomber dans ce nez-là ?» Barbe en broussaille grommela du fond de sa gorge quelques mots indistincts et cracha dans le feu pour protester contre cette question incongrue. Par l'amour de Dieu, s'esclaffa le gros, si tu es pris sans pépins dans une averse, pour sûr que tu te noies, pas vrai? La ferme, espèce d'enflé, s'écria le barbu excédé. Tes plaisanteries sont éculées, mon vieux. Les flics eux-mêmes me les servent. Mais que cela ne t'empêche pas de boire un coup, dit Boule de Graisse, s'adoucissant. En même temps, de son unique main, il relâcha adroitement les nœuds coulants de son paquet. Il en sortit une bouteille d'alki. Mais alarmé par un bruit de pas descendant le talus, il la plaça par terre, entre ses jambes, et la dissimula sous son chapeau. Le nouveau venu se révéla non seulement un collègue de caste, mais encore un manchot. Son aspect était si rébarbatif que les salutations se bornèrent à un échange de grognements. Solidement charpenté, grand, d'une maigreur squelettique, allongeant un visage pareil à une tête de mort, c'était un monstre repoussant, digne du crayon de Gustave Doré. Sa bouche édentée, aux lèvres minces et sarcastiques, semblait une fente sous un grand nez en bec de vautour, rejoignant presque le menton. Sa main décharnée et crochue ressemblait à une serre. Dans ses petits yeux gris, fixes et résolus, passait une lueur de cruauté. Sa présence vous glaçait. D'instinct, Barbe en broussaille et Boule de Graisse se rapprochèrent l'un de l'autre. Discrètement, Barbe en broussaille attira à portée de sa main un éclat de rocher de plusieurs livres en prévision de toute éventualité. Boule de Graisse s'empressa de l'imiter. Tous deux demeurèrent assis, se léchant les lèvres, embarrassés comme des coupables sous les regards du troisième manchot qui les observait tour à tour. « Hum !» ricana l'homme, voyant leurs préparatifs de défense. Aussitôt, leurs mains se crispèrent sur leurs armes de troglodyte. « Peuh !» répéta-t-il, et sa griffe plongea avec précision dans une poche de sa veste. « Eh bien, venez-y donc, espèce de lavette, vous aurez affaire à moi » Là-dessus, il tira de sa poche une barre de fer d'au moins 6 livres. « Nous ne cherchons pas de noises, le séco, » chevrota Boule de Graisse. « Qui diable es-tu pour m'appeler le séco ?» répliqua l'autre avec dédain. « Moi, simplement Boule de Graisse, et comme je ne t'ai jamais vu jusqu'ici. » « Et celui-là, ce doit être Barbe en broussaille, avec sa trogne de pochard en goguette et son drôle de nez qui fait la cavalcade sur toute sa cafetière. »« ça va, » murmura le barbu, mal à l'aise. « À mon âge, j'estime qu'un nom envoie un autre. En tout cas, à force de me l'entendre répéter, je sais que, sous l'averse, il me faut un pépin, sans quoi je risque d'être noyé, et ainsi de suite. Je ne suis pas habitué à la société. » « Et je ne l'aime guère, » grogna le séco. « Alors, si vous voulez rester ici, tâchez de bien vous tenir, sinon... » Il pêcha dans sa poche un mégot de cigare, vraisemblablement ramassé dans le ruisseau, et se disposa à le chiquer. Mais se ravisant, il jeta sur ses deux compagnons un regard farouche et déroula son ballot. Dans sa main apparut un flacon de pharmacie rempli d'alki. « Eh bien, » fit-il hargneux, « va encore falloir que je paye à boire à des déchets de votre espèce au risque de me priver, moi qui meurs de soif. » Ses traits se radoucirent quand il vit ses deux compagnons soulever leur chapeau avec orgueil et exhiber leur propre bouteille d'alcool. « Voilà de l'eau pour le courage, » annonça Barbe en broussaille, tendant sa boîte de conserve. « L'abreuvoir est plus haut, » ajouta-t-il en manière d'excuse, « mais il paraît que... » interrompit le séco en se servant. « J'ai bu quelquefois pire que cela. » Quand tout fut prêt et les boîtes d'alki en main, ces trois ex-hommes marquèrent une hésitation comme au rappel d'une vieille coutume, puis manifestèrent un certain malaise. Barbe en broussaille, le premier, reprit son aplomb. « Tel que vous me voyez, dit-il, je me suis assis à plus d'un fin gueuleton. Avec des couverts d'étain, ajouta malicieusement le Secco. Avec de l'argenterie, corrigea l'autre. Le Secco tourna vers Boule de Graisse un regard interrogateur. Boule de Graisse, d'un signe de tête, indiqua que lui aussi. Au bas bout de la table, insinua le Secco. Aux places d'honneur, rectifia Boule de Graisse. Je m'y asseyais par droit de naissance. Je n'ai jamais voyagé en seconde classe. En première ou en dernière classe, pas de milieu pour moi. Et toi, demanda Barbembroussaille au Secco. J'ai levé mon verre en l'honneur de la reine. Dieu la bénisse, répondit le Secco solennel. Dans l'office, lui glissa Boule de Graisse. Aussitôt, il saisit sa barre de fer et les autres leurs cailloux. Allons, ne nous énervons pas, conseilla Boule de Graisse, lâchant son arme. Nous ne sommes pas des ruffians, mais des gentlemen. Buvons donc en gentlemen. Que ce soit une vraie beuverie, approuva Barbembroussaille. Grisons-nous, consentit le Secco. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis l'époque où nous étions des gentilshommes. Mais oublions la longue route parcourue et comportons-nous comme les gens de qualité que nous étions au temps de notre jeunesse. Leur fiole vidée, et quand tour à tour les trois compères en eurent tiré une seconde de dessous leur guenille, leur cerveau s'éclaircit, mais ils n'échangèrent point pour autant leur véritable nom. Pourtant leur vocabulaire devint plus châtié. Ils parlaient à présent un anglais correct, et l'argot du trimard ne passait plus leurs lèvres. « Je rends grâce à ma robuste constitution, » expliqua Barbembroussaille. « Peu d'hommes auraient pu supporter les épreuves que j'ai endurées. Jamais je ne me suis préoccupé de ma santé. Si toutes les théories des moralistes et des physiologues présentaient quelques vérités, je devrais depuis longtemps avoir disparu de la circulation. N'en va-t-il pas de même pour vous autres ? Nous voici, à un âge avancé, lampant comme des jeunes gens n'oseraient pas se le permettre, dormant à la belle étoile, à même le sol, jamais protégés du froid, de la pluie, de la tempête, et ne craignant ni la pneumonie, ni les rhumatismes qui enverraient à l'hôpital la moitié des jeunes d'aujourd'hui. » Il s'interrompit pour préparer une autre ration d'alki. Boule de Graisse en profita pour prendre la parole. « Et nous ne nous sommes nullement ennuyés, » proclama-t-il. « En ce qui concerne les femmes et le reste, » dit-il en citant Kipling, « nous avons folâtré et nous avons erré. » « En notre temps, » compléta le Secco. « sans doute, » appuya Boule de Graisse. « Et des princesses nous ont aimés, du moins moi. »« Raconte-nous cela, » fit Barbembroussaille. « La nuit commence à peine. Pourquoi n'évoquerions-nous pas nos séjours dans les palais de rois ?» Avec empressement, Boule de Graisse s'éclaircit la voix et chercha un instant la meilleure manière de commencer son récit. « Sachez que j'appartiens à une excellente famille. Percival de Lanay ne passa pas inaperçu autrefois à Oxford, non pour ses succès scolaires, je l'avoue sans embâge, mais les joyeux drilles de cette époque-là, si tous ne sont pas morts, pourraient se souvenir de lui. « Mes ancêtres ont débarqué avec Guillaume le Conquérant, » interrompit Barbembroussaille en lui tendant la main, suivant le rite des présentations. « Quel nom ?» demanda Boule de Graisse. « De la Rose, Chancey de la Rose. Ce nom en vaut bien un autre. » Ils se serrèrent la main et considérèrent le Secco. « Eh bien, puisque nous y sommes, » l'invita Boule de Graisse. « Bruce Cadogan Cavendish, » grommela le Secco. « Continue, Percival. Parle-nous de tes princesses et de tes palais. » Ah, j'étais un fameux luron, acquiesça Perceval. J'ai fait les 100 coups au pays et je me suis diverti dans le monde entier. J'étais un beau spécimen d'homme avant d'avoir perdu ma ligne. Polo, steeple, boxe, lutte, natation, tels étaient mes sports préférés. J'ai gagné des médailles en Australie pour le dressage des chevaux. Je détenais plusieurs records de natation à partir du quart de mille. Les femmes se retournaient sur mon passage. Les femmes. Dieu les bénisse. Et Boule de Graisse, alias Percival Delaney, grotesque échantillon d'humanité, approcha sa main informe de ses lèvres épaisses et envoya un baiser sonore vers la voûte étoilée du ciel.
Mmh.
Et la princesse, reprit-il, avec un nouveau baiser au firmament, elle personnifiait dans son sexe ce que j'étais dans le mien. Elle était mon égale pour la fougue, le courage, la hardiesse, la témérité. Mon Dieu, elle nageait comme une sirène, une ondine. Au point de vue du sang, je faisais auprès d'elle figure de parvenue. Sa lignée royale se perdait dans les brumes du passé. Elle n'appartenait pas à la race blanche. Sa peau était bronzée, ses yeux bruns avaient des reflets d'or. Sa chevelure, d'un noir irisé de bleu, lui tombait jusqu'aux genoux et présentait cette légère disposition à boucler qui confère tant de charme aux cheveux de la femme. Ceux de la princesse n'étaient pas crépus, pas plus d'ailleurs que ceux de toute son ascendance, car la princesse était une Polynésienne resplendissante, divinement belle. Il interrompit de nouveau son discours pour envoyer un baiser au souvenir de la princesse, et le Seco, ou Bruce Cadogan Cavendish, en profita pour placer son mot. « Peuh ! » lança-t-il, « tu ne t'es peut-être pas distingué dans tes études, mais tu as rapporté d'Oxford de jolies fleurs de rhétorique. » Et dans les mers du Sud, j'ai cueilli de bien plus beaux bouquets au vocabulaire de l'amour, releva vivement Percival. Ceci se passait dans l'île de Talofa, poursuivit-il, autrement dit l'île d'amour, apanage de la princesse. Le roi, son père, déjà âgé, paralysé des jambes, passait ses journées et la majeure partie des nuits assis sur des nattes, à vider force bouteilles de gin pour noyer son chagrin. Ma princesse représentait sa seule descendance, son frère ayant été perdu dans une tempête alors qu'il revenait de Samoa. Mais en Polynésie, les femmes de sang royal possèdent, au même titre que les mâles, le droit de régner. En fait, c'est par la ligne féminine qu'ils suivent leur généalogie. Chauncey de la Rose et Bruce Cadogan Cavendish indiquèrent d'un geste qu'ils connaissaient cette particularité. « Ah, remarqua Percival, je m'aperçois que les mers du Sud vous sont familières à tous deux. Vous saurez donc apprécier tout le charme de ma princesse, la princesse Tui Nui de Talofa, la princesse de l'île d'amour. » Là-dessus, il envoya un baiser, lampa de sa boîte à lait condensé une copieuse gorgée d'alcool et dédia à sa dame un nouveau baiser. Mais, timide à l'extrême, si elle se plaisait en ma compagnie, elle ne s'approchait jamais assez de moi. Quand j'allongeais mon bras vers sa taille, elle s'éloignait prestement. J'éprouvais les mille tourments, chers et délicieux, de l'affection sans retour. Cependant, cette véritable déesse de l'amour me trouvait toujours docile et plein d'espoir. « Comme il sait parler !» murmura à son voisin Bruce Cadogan Cavendish. Mais Percival Delaney envoya de ses doigts boudinés un autre baiser vers le ciel nocturne et poursuivit d'une voix vibrante. Pas une torture, pas une mortification de mon extase qui ne me fut prodiguée par ma chère princesse. Elle me conduisit par tous les cercles délicieux de l'enfer de l'homme aimant que Dante n'a pas soupçonné. Ah, ces nuits languides des tropiques, au pied des palmiers, dans le murmure lointain et mélancolique du ressac, auprès de ma princesse, rebelle à mes désirs, lançant son rire, pareil au son de cordes d'argent frappées par des boutons de fleurs, et que ma passion délirante n'arrivait pas à troubler. En luttant avec les champions de Talofa, je commençais d'attirer son attention, et par mes prouesses de nageur, j'éveillais son intérêt. Un exploit de natation me permit d'obtenir d'elle plus que des sourires de coquette et de timide retraite. Ce jour-là, nous pêchions des sèches sur la côte. Vous connaissez sans doute la manière de procéder. Plongeant du haut de la falaise, par 5 ou 6 brasses de profondeur, nous explorions de nos bâtons les trous et crevasses du corail où se réfugient les sèches. À l'aide de ce bâton, long d'une 30aine de centimètres, pointu des deux bouts et contient par le milieu, on taquine la sèche au repos, jusqu'à ce qu'elle referme ses tentacules sur le poing, le bâton et le bras. À ce moment, elle est prise. Vous la ramenez à la surface, frappez sur sa tête qui forme le centre de son corps et vous la jetez dans le canot. Tel que vous me voyez, je pouvais réaliser pareille prouesse. » Percival de Lanay marqua une pause et une expression de crainte passa sur sa face lunaire à cette évocation de sa jeunesse. « Eh bien, il m'est arrivé de sortir une pieuvre aux tentacules longs de 2,50 mètres, et cela sous 15 mètres d'eau. Je pouvais rester immergé pendant 4 minutes. Une fois, je suis descendu, lesté d'un quartier de roc corallifère, jusqu'à 35 mètres, pour dégager une ancre faussée. Je n'hésitais pas à plonger par un saut périlleux en arrière en touchant l'eau, les pieds les premiers d'une hauteur de 26 mètres. « En voilà assez, change de disque !» lui enjoignit Chancey de la Rose avec humeur. « Parle-nous de la princesse. Cela seul peut réchauffer notre vieux sang. Il me semble que je la vois dans toute sa splendeur. » Percival exprima d'un baiser ce qu'il n'eût pu rendre par des mots. Une vraie sirène, je vous l'ai déjà dit. Elle a nagé pendant 36 heures avant qu'on la retrouvât un jour que son bateau avait chaviré dans une bourrasque. Je l'ai vue descendre à 30 mètres et ramener une huître perlière dans chaque main. Merveilleuse, voilà le vrai mot. Cette Ondine était une femme ravissante, sublime. Il eût fallu un Phidias ou un Praxitèle pour immortaliser la splendeur de ses formes. Ce jour-là, nous pêchions les pieuvres sur la côte et j'étais fou d'amour pour elle. Nous plongions du bord de la grande pirogue et gagnions côte à côte les profondeurs liquides aux délicieuses colorations. Tandis que nous nagions, elle tournait les yeux vers moi, me tourmentant et m'affolant encore davantage. À un moment donné, perdant tout contrôle, je voulus la saisir, mais elle sut m'éviter. Toute joyeuse, elle s'enfuit en descendant plus bas. Je crus alors la tenir, car je me trouvais entre elle et la surface. Mais de son bâton, elle remua et souleva le sable de corail du fond de l'eau, procédé employé pour échapper aux requins. Elle troubla l'eau de telle façon que je ne pouvais plus la voir, et quand je remontais, je la vis accrochée au bordage de la pirogue, riant de ma déconvenue. Je refusais d'accepter mon échec, mais elle n'était pas princesse pour rien. Elle posa sa main sur mon bras, me contraignant à l'écouter, et me proposa un jeu, un concours, à qui capturerait le plus grand nombre de pieuvres. L'enjeu consistait en baisers. Avec quelle ardeur j'effectuais ma première plongée. Je ne rapportais aucune pieuvre, et plus jamais je n'ai tenté d'en prendre. Nous nagions à 5 brasses environ de profondeur, et nous explorions le pied de la falaise lorsque l'événement se produisit. Je venais de fouiller une cavité, vide du reste, lorsque je perçus ou pressentis une présence hostile. Je me retournai, la bête se tenait là, à mon côté, et ce n'était pas un simple marsouin. Long de 4 mètres au moins, avec ses yeux de chat à la phosphorescence caractéristique, brillant comme des reflets d'étoiles, je le reconnus sans hésiter. Un requin-tigre. Sur ma droite, à 3 mètres, la princesse tâtait de son bâton une fissure du corail et le requin fonçait sur elle. En un éclair, je compris la situation. Il fallait détourner d'elle le mangeur d'hommes. Tout à fait conscient du danger de mon acte, je lançai la pointe de mon bâton dans le côté du requin, à peu près comme on attirerait l'attention d'un ami qui passe auprès de vous en lui piquant l'index entre les côtes. Le mangeur d'hommes se tourna vers moi. « Vous qui connaissez les mers du Sud, vous n'ignorez pas que le requin-tigre, pas plus que le grizzly à gueule chauve de l'Alaska, ne cède jamais la place. À plusieurs brasses au-dessous du niveau de la mer, s'engageait le combat, si on peut donner ce nom à une lutte aussi inégale. La princesse ne s'était aperçue de rien. Elle arracha sa prise et remonta. Le squale m'assaillit. Je m'efforçais de l'écarter en appuyant les mains sur son museau, au-dessus de sa gueule aux 1000 dents, et ne réussis qu'à me faire acculer aux aspérités aiguës du rocher de corail. J'en porte encore les cicatrices. Chaque fois que je tentais de remonter, car je ne pouvais rester indéfiniment sous l'eau, il m'attaquait et je l'écartais, mes 2 mains sur son museau. Je lui aurais même échappé, sain et sauf, si ma main droite n'avait glissé. Elle s'enfonça dans sa gueule jusqu'au coude, et ses mâchoires se refermèrent sur mon bras, juste au-dessous de l'articulation. Vous savez comment sont constituées les dents du requin. Elles ne peuvent se desserrer que quand elles se sont rejointes. Ne parvenant pas à briser un gros os, elles glissèrent le long de mon avant-bras, arrachant la chair jusqu'à mon poignet. Là, elles se rencontrèrent, et ma main droite servit à le mettre en appétit. Pendant ce temps, j'avais lancé le pouce de ma main gauche dans une de ses orbites et j'en avais fait sauter l'œil. En vain. Excité par le goût de ma chair, le monstre s'élança vers mon moignon, d'où le sang jaillissait. À 5 ou 6 reprises, je pus le détourner avec mon bras valide, mais à la fin, il saisit à nouveau mon pauvre bras mutilé et en racla la chair, depuis l'épaule jusqu'au coude. Là, ses dents se rejoignirent, et il put disposer d'une seconde bouchée de ma personne. Mais entre-temps, j'avais arraché son second œil. Percival de Lanay haussa les épaules et poursuivit. D'en haut, les occupants de la pirogue avaient suivi toute la scène et célébraient hautement mes louanges. On chante encore mon exploit dans l'île d'amour. Quant à la princesse, il marqua un arrêt, bref, mais expressif. La princesse devint mon épouse. Hélas, 3 fois hélas, le tourniquet du temps et de la fortune, l'incertitude de la chance, l'apparition d'une canonnière française, la conquête d'un royaume insulaire en Océanie, aujourd'hui gouverné par un gendarme colonial, fils de paysan, illettré, et... Il termina son récit en cachant son visage dans l'ouverture aux dentelures rabattues de sa boîte à lait condensée, et en versant dans son gosier, par lampée avide, le breuvage corrosif. Après une pause convenable, Chauncey de la Rouse, surnommé Barbe en broussaille, prit à son tour la parole. Loin de moi l'idée de me glorifier de ma naissance, assis auprès de ce feu avec n'importe quel compagnon de hasard, je puis dire que, moi aussi, je jouissais autrefois d'une situation enviable. J'ajouterai que ce sont les chevaux et une trop grande indulgence de la part de mes parents qui m'ont exilé à travers le monde. Et j'ai usé et abusé impunément d'une santé de fer. Me voici, avec 70 années derrière moi, et sur cette longue route, j'ai vu tomber plus d'un jeune homme aussi audacieux que moi-même, mais incapable de tenir le train. J'ai connu le pire trop tôt, et maintenant, trop vieux, je le connais encore. Mais il fut un temps, hélas, trop court, où je pus apprécier le meilleur de la vie. Moi aussi, j'envoie un baiser à la princesse qui régna sur mon cœur. C'était une princesse authentique de Polynésie et qui vivait à 100 kilomètres au sud-est de l'île d'amour de Delaney. Les natifs de cette région des mers du sud appelaient leur pays l'île de Gaieté. Mais le vrai nom que lui donnent ces peuplades indigènes peut se traduire en celui plus juste et plus délicat de l'île du rire paisible. Sur les cartes, vous trouverez le nom de Manatomana, que lui ont donné les vieux navigateurs. Les trafiquants qui infestent les mers l'appellent l'Éden sans Adam, et autrefois, les missionnaires la baptisèrent la manifestation divine, tant leur succès à convertir ses habitants s'était avéré éclatant. Pour moi, elle était et sera toujours un coin du paradis. C'était mon paradis, à moi, car ma princesse y habitait. Jean Asibelitungi en était roi. Indigène de race pure, il descendait de la plus ancienne et plus haute lignée de chefs. On le connaissait aussi sous le nom de Jean l'Apostat, car il changea maintes fois de religion. D'abord converti au catholicisme, il renversa les idoles, rompit les tabous, renvoya les prêtres indigènes, en supprima quelques-uns, et envoya à l'Église tous ses sujets. Plus tard, il se prit d'affection pour les traitants qui avaient su lui donner le goût du champagne, et il embarqua les prêtres catholiques pour la Nouvelle-Zélande. La plupart de ses sujets, suivant toujours son exemple, il n'existe bientôt plus aucune religion dans l'île, et ce fut l'époque de la grande licence. Dans toutes les mers du Sud, les missionnaires parlant de son île au cours de leur sermon, la flétrir du nom de Babylone. Mais les traitants, lui ayant détraqué l'estomac à force de champagne, au bout de quelques années, il se rallia à l'évangile prêché par les méthodistes, renvoya son peuple au temple, nettoya la côte de certains trafiquants et appliqua des règlements très sévères. Il interdit à ses sujets de fumer la pipe dehors le dimanche et condamna un des principaux d'entre eux à une amende de 100 souverains d'or pour avoir fait laver le pont de sa goélette le jour du sabbat. Ce fut l'époque des lois bleues, mais peut-être semblèrent-elles trop rigoureuses au roi Jean lui-même. Un beau jour, il expédia les méthodistes, exila à Samoa plusieurs centaines de ses sujets coupables de leur rester fidèles, et s'empressa d'inventer une religion de son cru, où, suivant en cela les conseils d'un renégat des îles Fidji, lui-même représentait l'objet principal des dévotions. Cette situation dura 5 ans. Se lassa-t-il de son rôle de divinité, ou faut-il voir là le résultat de la fuite du Fidjien, emportant 6 000 livres du trésor royal? Les Wesleyens de la seconde réforme le convertirent, lui et tout son royaume. Il nomme séance tenante l'aventureux missionnaire Wesleyen premier ministre. En fin de compte, le royaume du roi Jean se trouva boycotté par les trafiquants au point que ses revenus tombèrent à zéro. Ses sujets furent ruinés et il devint impossible au monarque d'emprunter 1 shilling du plus puissant de ses chefs. En prenant de l'âge, il se montra philosophe, plein de tolérance, animé de l'esprit des ancêtres. Il expulsa les Wesleyens de la seconde réforme, rappela les exilés de Samoa, invita dans l'île les trafiquants, organisa une fête d'amour et de réconciliation générale. Il proclama la liberté de conscience et la hausse des tarifs. Pour son compte, il revint aux croyances de ses pères, fit exhumer les idoles, réintégra dans leur charge quelques prêtres octogénaires et respecta les tabous. Tout cela enchantait les traitants et la prospérité régna de nouveau dans le pays. La plupart de ses sujets revinrent avec lui au culte des faux dieux. Cependant, de petits noyaux de catholiques, de méthodistes et de wesleyens restèrent fidèles à leur foi et parvinrent à conserver quelques églises délabrées, très peu fréquentées. Mais le roi Jean ne s'intéressait pas à ces détails et pas davantage aux exploits des traitants le long de la côte. Tout lui semblait marcher à souhait du moment que les impôts rentraient régulièrement. Même quand son épouse, la reine Mamar, décréta de devenir baptiste et convoqua un missionnaire de cette religion, un petit homme maigre, d'esprit conciliant et affligé d'un pied beau, le roi ne souleva aucune objection. Il n'y mettait qu'une condition. Ces vagues cultes devraient se pourvoir eux-mêmes, sans demander un sou au coffre de l'État. Et maintenant, les fils de mon récit convergent vers l'idéal des séductions féminines. Ma princesse, ah. Barbe en broussaille se tut. Il posa avec soin sur le sol sa boîte à lait, à moitié vide, et avec laquelle il gesticulait distraitement pour pouvoir, de sa main unique, envoyer vers le ciel un baiser sonore. Elle était la fille de la reine Mamar. Merveille féminine, elle semblait presque immatérielle contrairement au type de la Diane polynésienne. Pure et éthérée, elle avait la modestie de la violette, la fragilité du lys et la clarté d'une étoile. Ses yeux, où brillait une tendre flamme, ressemblaient à des asphodèles sur un champ d'azur. Elle était à la fois fleur, feu et rosée. Elle possédait le charme de la rose des montagnes et la douceur de la colombe. Aussi bonne que belle, elle observait pieusement la foi maternelle que professait Ebenezer Naismith, le missionnaire baptiste. Mais ne vous y trompez pas, elle n'était pas un pur esprit, mûr pour le sein d'Abraham. C'était une vraie femme, exquise et délicieuse, sensible jusqu'à la moindre fibre de son être. Et moi, j'étais un débauché de la côte. Le plus audacieux et le plus rusé des trafiquants ne m'arrivait pas à la cheville. Au poker, je ne craignais personne. Parmi les blancs, les bruns ou les noirs, j'étais le seul qui osa se risquer à traverser la passe de Kunikuni, et j'avais accompli par une nuit noire au milieu des récifs cette prouesse en pleine tempête. Enfin, dans ce pays infesté de ruffians, ma réputation était la pire de toutes. Rien ne me retenait, ni les batailles, ni les jeux. Les capitaines marchands se plaisaient à amener des recoins les plus malfamés du Pacifique des prodiges pour me les opposer dans des beuveries où le vaincu devait rouler sous la table. Je me souviens d'un Écossais à l'estomac desséché, frais et moulu des Nouvelles-Hébrides. Ce fut une orgie mémorable, mais il en mourut. Nous le montâmes à bord, confit dans un fût de rhum, pour le réexpédier en son pays. Je vous offre là un échantillon de nos tours pendables sur la grève de Manatomana. Et, chose inouïe, ne m'avisais-je pas certains jours de porter les yeux sur la princesse et de m'éprendre d'elle? Ce fut le coup de foudre. J'étais déjà fou, mais ma folie ne connut plus de bornes. Figurez-vous que je transformais mon existence du tout au tout. Songez au miracle que la contemplation d'une femme peut opérer sur l'âme d'un pécheur. Aussi vrai que je vous parle, je me réformais. Je fréquentais l'église. Tenez-vous bien, je me convertis. Je lavais ma conscience devant Dieu et m'abstins de porter les mains, j'en possédais deux alors, sur mes anciens camarades de la grève quand ils se moquaient de ce qu'ils appelaient ma dernière lubie. Je me livrais avec passion et sincérité à une expérience religieuse qui m'a rendu depuis très tolérant. Je congédiais mon meilleur capitaine pour l'immoralité. J'en fis autant de mon chef cuisinier, et cependant jamais meilleur maître qu'eux n'était venu à Manatomana. Animé des mêmes principes, je me séparais de mon principal commis. Pour la première fois, mes goélettes emportèrent vers l'ouest des bibles parmi leurs cargaisons. Je me construisis un petit bungalow d'ermite, en haut de la ville, dans une rue bordée de manguiers, à proximité de la maisonnette habitée par Ebenezer Naismith. Je fis de lui mon camarade et mon ami, et je trouvai en lui un véritable trésor de bonté et de douceur. C'était un homme dans toute l'acception du terme. Il mourut longtemps après, en homme. J'aimerais vous raconter son histoire si elle ne devait nous conduire trop loin. Ce fut la princesse, plutôt que le missionnaire, qui m'amena à manifester ma foi par de bonnes œuvres, dont la plus marquante fut la construction de la nouvelle église, notre église. Notre pauvre église, m'avait-elle dit un soir à l'issue de la prière en commun, une quinzaine de jours seulement après ma conversion. Elle est si petite que le nombre de ses fidèles ne pourra jamais s'accroître. En outre, sa toiture laisse passer l'eau de pluie et menace de s'effondrer. Et le roi Jean, mon père, au cœur si dur, refuse de contribuer, même pour un penny, aux réparations, encore que son trésor soit prospère. Et Manatomana n'est pas pauvre du tout. Ici, on gagne beaucoup d'argent et on en gaspille autant. Je le sais. À mes oreilles sont parvenus maints racontards sur les extravagances auxquelles se livrent les gens de la baie. Il y a moins d'un mois, vous-même avez perdu aux cartes en une seule nuit une somme supérieure à celle qui suffirait à entretenir notre église pendant toute une année. Je reconnus les faits, mais ajoutai que cela se passait avant que j'eusse reçu la révélation divine. Je lui affirmai que depuis lors je n'avais pas goûté à l'alcool, ni touché une carte, et que j'allais sur le champ faire réparer le toit par des charpentiers chrétiens choisis par elle-même dans la communauté. Mais hanté par l'idée d'une grande renaissance religieuse que pourrait prêcher Ebenezer Naismith, elle se mit, chère sainte, à parler en ces termes d'une vaste église. Vous êtes riche, vous possédez de nombreuses goélettes et des comptoirs dans des îles lointaines. On m'a aussi parlé d'un contrat important signé par vous pour recruter de la main-d'œuvre noire destinée aux plantations allemandes d'Upolu. On prétend qu'avec Schweitzer, vous êtes le marchand le plus opulent de l'endroit. Il me plairait de voir employer à la gloire de Dieu une partie de cette fortune. Ce serait une noble action et je serais fier de connaître l'homme qui l'accomplirait. Je lui répondis qu'Ebenezer Naismith pourrait prêcher la Renaissance et que je bâtirais une église suffisamment spacieuse pour abriter tous les néophytes. « Aussi grande que l'église catholique » demanda-t-elle. Elle faisait allusion à la cathédrale, construite à l'époque de la conversion de toute la population. Il s'agissait là d'un édifice superbe. Transporté par l'amour, je lui répondis que ma nouvelle église serait encore plus vaste. « Mais cela coûtera cher, » ajoutai-je, « et il faudra du temps pour gagner l'argent nécessaire. » « Vous êtes très riche, à ce qu'on dit. Vous possédez beaucoup plus d'argent que mon père, le roi. » « Je possède plus de crédit que lui, expliquai-je de mon mieux. Mais vous semblez ne rien entendre aux questions financières. Il faut des capitaux pour obtenir du crédit. Je me servirai donc des capitaux et du crédit dont je dispose pour réaliser une augmentation des deux, et l'église sera édifiée. Ô vertu du travail, quelle force tu représentes! Quelle somme étonnante de temps un homme peut trouver lorsqu'il renonce à la débauche, au jeu et à toutes les distractions stériles. Je ne gaspillais pas une seconde et remplis à moi seul la besogne d'une douzaine d'hommes. Je devins un entraîneur. Mes capitaines effectuèrent des tournées plus rapides que jamais et touchèrent des primes plus fortes. De même mes subrécargues, attentifs à ce que mes goélettes évitassent de s'attarder inutilement dans les ports. Je veillais à ce que mes instructions fussent suivies à la lettre. Et honnête, par Dieu, je l'étais devenu, au point d'en souffrir. Ma conscience se fit tellement exigeante que j'en vins à réviser mes comptes. Je remboursai même à Schweitzer 50 livres dont je l'avais frustré dans une affaire aux îles Fidji 3 années auparavant et avec les intérêts composés par-dessus le marché. Je plantais de la canne à sucre et réalisait le premier essai de culture commerciale à Manatomana. Je fis venir de Malaita, une des îles Salomon, des cargaisons de têtes crépues, et bientôt j'eus 1200 indigènes employés sur mes plantations. J'envoyai une goélette jusqu'à Hawaï pour en ramener un broyeur à canne et un Allemand qui se prétendait spécialiste en la partie. Il me demanda $300 par mois et je pris possession des appareils. Je les installai moi-même avec l'aide de plusieurs mécaniciens recrutés dans le Queensland. J'avais un rival, un indigène pur sang, nommé Motomoe, le plus grand des chefs et le plus proche parent du roi Jean. Ce superbe gaillard ne dissimula pas son antipathie envers moi lorsque je commençais de fréquenter les abords du palais. Il rechercha mes antécédents et fit circuler des histoires abominables sur mon compte. Le pis, c'est que la plupart d'entre elles étaient vraies. Il fit même exprès le voyage d'Apia pour découvrir de nouvelles infamies, comme s'il n'avait pu en recueillir à foison sans quitter Manatomana. Il se moquait de ma ferveur religieuse, de mon assiduité aux offices, et par-dessus tout, de mes plantations. Il me provoqua au combat, mais je l'évitais. Il me menaça, et j'appris à temps son intention de m'assommer. Vous comprenez, il aimait la princesse autant que moi, et ce n'est pas peu dire. Elle jouait du piano. Moi aussi autrefois, mais je me gardais bien de le lui apprendre lorsque je l'eus entendu pour la première fois. La chère et douce enfant se croyait virtuose. Vous connaissez le jeu mécanique des écolières. 1, 2, 3, tom, tom, tom. Le plus drôle de l'affaire, c'est que sa façon de jouer me semblait merveilleuse. Lorsque je l'écoutais, les portes du ciel s'ouvraient devant moi. Je me revois épuisé, à bout de force, après une longue journée de travail. Allongé sur les nattes de la véranda du palais, je la regardais au piano et me plongeais dans une complète extase. L'orgueil qu'elle concevait de son talent était son seul travers et je l'en aimais davantage. Ce défaut la rapprochait de mon cœur. Rien qu'à l'entendre, j'étais transporté au 7e ciel et ma lassitude disparaissait. J'éprouvais envers elle des sentiments purs comme la flamme, purs et immaculés comme l'amour divin. Dans mon imagination exaltée, je croyais que Dieu devait, par main côté, ressembler à ma belle princesse. C'est ainsi, Bruce Cadogan Cavendish, riez à votre aise. Mais je l'affirme, l'amour n'est pas autre chose. C'est le sentiment le plus profond, le plus pur, le plus sublime jamais éprouvé par l'homme. J'en parle en connaissance de cause. J'ai passé par là. Barbe en broussaille, dont la prunelle d'écureuil brillait sous son sourcil épais, fit une longue pause pour avaler de sa boîte à lait une lampée calmante et s'en préparer une autre. « Parlons maintenant de la canne à sucre, » reprit-il, en essuyant d'un revers de main sa prodigieuse barbe. Sous cette latitude, elle mûrissait en 16 mois, et le moulin fut prêt, mais de justesse, pour la broyer. Bien entendu, j'avais échelonné mes plantations de manière à pouvoir travailler régulièrement durant 9 mois, tandis qu'on replantait et que les jeunes pousses prenaient de la vigueur. Dès les premiers jours, je fus en butte à de fâcheux ennuis. Tantôt, une pièce du moulin, tantôt une autre se détraquait. Le 4e jour, mon mécanicien, Ferguson, dut arrêter quelques heures pour régler la broyeuse. Je fis enduire les cylindres d'une couche de chaux par des nègres employés à apporter la canne, et je les envoyais aider les coupeurs. Je me trouvais donc seul à cet endroit quand Ferguson fit repartir la machine. Au même instant, je découvris la défectuosité des rouleaux entraîneurs et je vis avancer tranquillement Motomoe, mon rival détesté. Vêtu à la dernière mode, il souriait d'un air dédaigneux en me voyant couvert de boue et de graisse et accoutré comme un terrassier. Ainsi que je l'ai dit, je venais de découvrir ce qui clochait dans les cylindres grâce à la couche de chaux. Il n'était pas parallèle. À une extrémité, il saisissait bien la canne, mais à l'autre, il se trouvait trop écarté. Je passais les doigts dans l'intervalle. Les longues cannelures saillantes des rouleaux ne les touchaient point. Mais soudain, elles se resserrèrent. Avec une force de tous les diables, le bout de mes doigts fut happé, entraîné et réduit en bouillie. Comme une tige de canne, je partais dans l'engrenage, et rien à faire pour m'arrêter. 10 000 chevaux n'auraient pu m'arracher en arrière. Pas de remède possible. Mais bras, épaules, tête, poitrine, tout, jusqu'au doigt de pied devait y passer. Je souffrais à tel point que je ne sentais plus ma douleur. Indifférent, pourrais-je dire, je regardais se broyer ma main, phalange par phalange, jointure par jointure, mon poignet, mon avant-bras, le tout filant dans une succession lente mais inéluctable. Ô artificier anéanti par ton propre pétard, ô fabricant de sucre écrasé par ton propre moulin. Motomoe bondit vers moi et une expression d'angoisse remplaça son sourire. Mais le bon côté de la situation lui apparut soudain, et il éclata de rire. Non, je n'attendais rien de lui. N'avait-il pas cherché à m'assommer? Et qu'aurait-il pu tenter, ne connaissant rien aux machines? Je hurlai à Ferguson d'arrêter, mais le bruit couvrait ma voix. Pris jusqu'au coude, mon bras avançait régulièrement. Je ressentais maintenant des pincements lorsque certaines fibres se rompaient ou s'arrachaient. Cependant, à cet instant, je m'étonnais que la souffrance ne fût pas plus aiguë. Motomoe fit alors un geste qui attira mon attention, et il grommela tout haut, comme furieux contre lui-même, « Je suis un imbécile ». Il avait ramassé un couteau à canne, vous connaissez cet outil pesant comme une hache. Je lui suggérais par avance de mettre fin à mes souffrances. Je ne voyais aucune raison d'alimenter le moulin de ma propre personne. Déjà mon bras se trouvait engagé, à mi-chemin du coude à l'épaule, et le mouvement continuait. Donc, plein de gratitude, je courbais la tête, attendant le coup de grâce. « Écarte ta tête de là, idiot » aboya-t-il. Alors je compris son dessein, et j'obéis. J'étais bien bâti, et il fallut qu'il s'y reprît à deux fois. Mais il réussit à me couper le bras au niveau de l'épaule, puis il me tira en arrière et m'étendit sur les cannes. Oui, le sucre me rapporta d'énormes bénéfices. Je construisis pour la princesse l'église de son rêve, et elle m'épousa. Il étancha momentanément sa soif, et conclut. Hélas, tout cela est fini. À présent, seul l'alcool peut encore me procurer un peu de joie. Mais j'ai vécu, et j'envoie un baiser aux cendres de ma princesse bien-aimée. Depuis de longues années, elle dort dans le grand mausolée du roi Jean, qui par-delà le val de Manoma, regarde le drapeau étranger claqué sur le palais du gouvernement anglais. Boule de Graisse leva vers lui sa petite boîte à lait en signe de sympathie et but à sa santé. De son œil dur et implacable, Bruce Cadogan Cavendish regardait fixement le feu. Il appartenait à ce genre d'homme qui préfère boire seul. Sur ses lèvres pincées errait une expression moqueuse que surprit le regard de Boule de Graisse. Et celui-ci, s'assurant au préalable de la proximité de son caillou, osa le défier. « Eh bien, et toi, Bruce Cadogan Cavendish, à ton tour. » L'autre leva les yeux sur Boule de Graisse, et celui-ci manifesta un certain malaise physique. « Ma vie a été rude, » proféra le Secco d'un ton âpre. « Que sais-je des épisodes de l'amour ?»« Un homme de ton acabit ne peut y avoir échappé, » dit Boule de Graisse, flatteur. « Et après, » gronda l'autre, « un gentleman ne se vante pas de ses conquêtes amoureuses. » « Allons, continue, » insista Boule de Graisse. « La nuit commence à peine. Il nous reste encore de quoi boire. De la Rouse et moi, avons fourni notre écho. Ce n'est pas souvent que trois compères de notre espèce ont l'occasion de faire un brin de conversation. Dans tes aventures d'amour, il en existe au moins une dont tu puisses parler sans honte. » Bruce Cadogan Cavendish serra sa barre de fer et parut se demander si, oui ou non, il allait assommer son interlocuteur. Mais il poussa un soupir et fit disparaître son arme. « Ah, fort bien, puisque vous l'exigez, céda-t-il avec une mauvaise grâce manifeste. Comme vous deux, j'ai possédé une remarquable constitution. Et maintenant encore, je me fais fort de vous surpasser dans vos plus brillantes beuveries. Comme vous deux, mes origines n'ont rien de commun avec ma situation actuelle. Je porte la marque indiscutable de la noblesse, et si l'un de vous ose ergoter sur ce point... » Sa main plongea dans sa poche, mais aucun de ses auditeurs ne souffla mot et ne parut même tenir compte de sa menace. « Mon histoire se déroule à 1000 kilomètres à l'ouest de Manatomana, dans l'île de Tagalog, poursuivit-il. Mais il semblait déçu de n'avoir pas provoqué de discussion. D'abord, je vous explique ma présence à Tagalog, pour des raisons que je m'abstiendrai d'exposer, à la suite de dégringolades que je ne décrirai point. Je me trouvais dans la plénitude de ma virilité et à la fleur de la perversité, capitaine et propriétaire d'une goélette. Je transportais de la main-d'œuvre noire du Pacifique Sud-Ouest et de la mer de Corail aux plantations d'Hawaï et aux mines de nitrate du Chili. C'est toi qui as nettoyé toute la population de... Poule de Graisse n'acheva pas sa question. Déjà la main de Bruce Cadogan Cavendish filait vers sa poche et en ressortait, brandissant la barre de métal. « Ah, continue, soupira Boule de Graisse, je ne me rappelle plus du tout ce que j'allais dire. » « Cette route est semée d'îles sauvages, reprit l'orateur d'un air détaché. J'étais descendu à Takitiki, un îlot rattaché administrativement au Salomon, mais qui, du point de vue ethnographique, appartient à la fois à la Polynésie, à la Mélanésie et à la Micronésie, car toutes les races du Pacifique Sud y ont convergé, entraînées par les courants, et s'y sont croisés dans une surprenante et inextricable dégénérescence. La lie de ce qui a forme humaine, biologiquement parlant, se dépose à Takitiki. Je connais ces déchets et je sais de quoi je parle. À cette époque, je pêchais les perles et la bêche de mer. Je troquais du fer feuillard et des hachettes contre du copra et des noix d'ivoire. Je vendais des nègres et me débrouillais assez bien. Même à Fidji, la vie était dure pour l'étranger, et les chefs indigènes se repaissaient de cochons longs, c'est-à-dire de chair humaine. À l'ouest, chez les petits négroïdes tous cannibales, les affaires marchaient, et leurs cagnottes représentaient une valeur estimable. « Leurs cagnottes ?» s'enquit Boule de Graisse. Devant un geste irrité de l'autre, il ajouta, « Tu comprends, je n'ai jamais visité les îles de l'ouest comme de la Rouse et toi. Ce sont tous des chasseurs de têtes. Une tête représente une valeur, surtout celle d'un blanc. Ils s'en servent pour orner les hangars à pirogues et les cases de leurs fétiches. Chaque village possède une cagnotte à laquelle chacun contribue. Elle appartient à qui ramène une tête de blanc. S'il se passe longtemps avant qu'elle soit gagnée, elle atteint des proportions surprenantes. J'en sais moi-même quelque chose. Un de mes seconds, un Hollandais, mourut à mon bord d'une crise de fièvre noire et je remportai moi-même une cagnotte. Voici comment. Nous nous trouvions alors à Langolui. Sans en souffler mot à quiconque, je réglai l'affaire avec Johnny, mon pilote, un noir de Port Moresby. Il détacha la tête du cadavre, s'enfuit à terre au milieu de la nuit tandis que je feignais de le poursuivre à coups de fusil, et il récolta la cagnotte en échange de la tête du second. Le lendemain, j'envoyai à terre une chaloupe avec deux autres pour l'escorter, et je le ramenai avec son butin. « Il était important ?» demanda Barbon Broussaille. « J'ai entendu parler d'une cagnotte à Orla qui valait 80 livres. » « Celle-là, répondit le séco, se composait d'abord de 40 cochons gras, dont chacun valait une brasse d'excellente monnaie de coquillage, et chaque ligature d'une brasse représente une guinée, au total 200 $. Puis il y avait 98 brasses de monnaie de coquillage, soit environ 500 $. Je fis 4 parts, un quart à Johnny, un quart pour l'équipage, un quart à moi-même comme armateur, et l'autre à moi-même en qualité de capitaine. » Johnny n'éleva aucune réclamation. De sa vie, il n'avait possédé une telle fortune. Par-dessus le marché, je lui offris deux vieilles chemises du second. La tête de celui-ci doit encore, à l'heure actuelle, orner le hangar aux pirogues. « Ce n'est pas là ce qu'on pourrait appeler une sépulture chrétienne, » déclara Barbe en broussaille. « Non, mais ce fut une sépulture lucrative, » répliqua le séco. « J'ai donné pour rien le reste du second à manger aux requins. Pensez-vous que j'allais les régaler avec une tête valant 800 $? C'eût été un gaspillage stupide et de la folie pure. En tout cas, on menait une drôle d'existence là-bas vers l'ouest. Je ne vous parlerai pas de mes difficultés à Takitiki, mais j'en partis avec 200 noirs destinés aux plantations du Queensland. Mes méthodes de recrutement me valurent d'être poursuivi dans le Pacifique par 2 bateaux de guerre anglais. Je changeai alors de direction et courus à l'ouest, comptant me débarrasser du lot aux plantations espagnoles de Bangar. Saison du typhon, je tombe en plein cyclone. Ma goélette, le guet brouillard, m'avait semblé jusqu'alors construite à toute épreuve, mais les vagues. Elles brisèrent sa robuste membrure, déchaussèrent les mâts, réduisirent les cabines de pont en bois d'allumettes et arrachèrent l'hélice. Le plus fort de l'ouragan passé, les madriers du pontage se mirent à filer. Nous parvîmes à réparer ce qui restait d'une chaloupe et à maintenir la goélette à flot en attendant que la mer se calma suffisamment pour nous permettre de quitter le bord. Nous descendîmes la chaloupe en toute hâte. Le charpentier et moi, restés les derniers, nous dûmes sauter pour l'atteindre. Nous n'étions plus que 4. « Les nègres furent tous noyés ?» demanda Barbe en broussaille. « Plusieurs nagèrent pendant un moment, » répondit le séco. « Mais je ne crois pas qu'ils aient atteint la terre, car il nous fallut 10 jours avec le vent favorable la plupart du temps. « Et que pensez-vous que nous ayons emporté ? Des caisses de gin en bouteilles carrées et des caisses de dynamite. Tordant, hein ? Ce fut plus drôle par la suite. Il y avait bien encore un petit bidon d'eau, un peu de cheval salé et quelques biscuits détrempés par l'eau de mer. Bref, de quoi nous sustenter jusqu'à Tagalog. Or, Tagalog est l'île la plus déconcertante du monde. On peut la repérer à 20 000 de distance. C'est un cône volcanique qui surgit d'une mer profonde. Une énorme brèche dans la paroi de son cratère laisse pénétrer les flots et forme un port parfaitement abrité. Aucun être ne vit dans l'île. L'intérieur et l'extérieur du cratère sont trop escarpés. Pourtant, à l'intérieur pousse une forêt de cocotiers. Et c'est tout, à part quelques insectes. Pas une bête à 4 pattes, pas même un rat. Le plus curieux, c'est qu'avec tous ces arbres, on ne trouve pas même un crabe de cocotier. Les seuls animaux comestibles étaient de gras et superbes mulets entrevus par bancs entiers dans le Havre. Débarqués tous les 4 sur la petite grève, nous nous installâmes sous les cocotiers avec de la dynamite et des flacons de gin comme provision. N'est-ce pas comique ? Essayez à l'occasion d'un régime composé exclusivement de genièvre hollandais et de noix de coco. Vous m'en direz des nouvelles. Si je ne suis pas aussi ferré que notre ami Chauncey de la Rose en matière de religion, j'en possède du moins quelques idées fondamentales. Je me représente l'enfer comme un immense bois de cocotiers pavé de caisses de gin et peuplé de marins naufragés. N'est-ce pas désopilant ? Le diable lui-même en rirait aux larmes. Ce régime de noix de coco ne favorisait point nos digestions. Lorsque la faim nous talonnait, nous recourions à une gorgée supplémentaire de gin. Au bout de 2 semaines, Olaf, un matelot à tête carrée, conçut une idée grandiose. À ce moment, il était ivre mort, et nous n'en valions guère mieux. Il fixa une capsule et une courte mèche dans un rouleau de dynamite, puis se dirigea vers la chaloupe. Je crus vaguement qu'il voulait essayer de pêcher du poisson à la dynamite. Le soleil tapait dur et je restai étendu en lui souhaitant bonne chance. Environ 1 heure après son départ, nous entendîmes l'explosion. Mais l'homme ne revint pas. Nous attendîmes la fraîcheur du soir pour être fixés sur son sort. Le bateau était bien là, poussé au rivage par une brise favorable, mais pas d'Olaf. Jamais il ne reviendrait. Tremblant comme la feuille, nous remontâmes casser le cou à une autre bouteille. Le lendemain, le cuisinier déclara qu'il préférait essayer de prendre du poisson à la dynamite que de continuer ce régime de noix de coco. Nous lui préparâmes une cartouche et il se donna du courage en avalant 1 ou 2 lampées de gin. Même programme que la veille. Au bout d'un instant, nous entendîmes l'explosion et au crépuscule nous descendîmes au bateau sur lequel nous pûmes recueillir suffisamment du camarade pour donner prétexte à un enterrement. Le charpentier et moi tînmes bon 2 jours. Nous tirâmes ensuite à la courte paille et il se trouva désigné par le sort. Nous nous séparâmes en échangeant des injures. Il prétendait emporter une bouteille pour se rafraîchir en route, et je m'élevais contre ce gaspillage de notre boisson. Du reste, il en tenait déjà plus que son compte, et il s'éloigna. Même histoire que pour les deux autres, à la différence qu'il ne resta pas mal de morceaux à enterrer, car le charpentier n'avait employé que la moitié d'un bâton de dynamite. Je remis ma propre expérience au lendemain, c'est-à-dire lorsque, une fois remonté, j'eus acquis assez de courage pour toucher à l'explosif. Je ne pris que le tiers d'une baguette avec une mèche courte dont je fendis l'extrémité pour y insérer la tête d'une allumette, améliorant ainsi les méthodes de mes prédécesseurs. Sans l'allumette, leur mèche était trop longue, et quand ils repéraient un banc de mulet, il leur fallait, avant de le lancer, garder à la main leur engin jusqu'à ce que la mèche fût presque entièrement brûlée. S'ils s'y prenaient trop tôt, elle s'éteignait au contact de l'eau, et le bruit de la chute effrayait le poisson qui s'éloignait. Drôle de matière que la dynamite. En tout cas, je tiens toujours ma méthode pour la plus sûre. Je n'avais pas ramé 5 minutes que je tombais sur un banc de gros mulets. Il me semblait déjà les sentir griller. Lorsque je me mis debout, une allumette entre les doigts, le bâton de dynamite dans l'autre main, mes genoux s'entrechoquaient. Était-ce l'effet du gin, de l'angoisse ou de la faiblesse, née de la faim, ou bien tout cela réuni? Toujours est-il que je tremblais de tous mes membres. À 2 reprises, j'essayais, en vain, d'allumer la mèche. Enfin, j'y parvins, j'entendis grésiller la tête d'allumette et je lâchai tout. J'ignore ce qu'ont fait les autres, mais je sais fort bien ce qui m'est advenu. J'ai sauté en l'air. Vous est-il jamais arrivé d'ôter la queue d'une fraise et de la porter à votre bouche, tandis que vous jetiez la fraise? Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai lancé l'allumette dans l'eau et j'ai gardé la dynamite à la main lorsqu'elle a explosé. Mon bras a été arraché net. Le Seco prit la boîte à tomates pour couper son alcool et la trouva vide. Il se leva.
Oh,
dit-il dans un bâillement, et il prit le sentier de la rivière. De retour, au bout de quelques minutes, il mélangea à son alcool l'eau limoneuse dans les proportions convenables, absorba une longue gorgée et considéra le feu d'un air chagrin et irrité. « Oui, mais, hasarda Boule de Graisse, qu'est-il arrivé ensuite ?»« Ensuite, dit le Seco. Eh bien, moi aussi. » J'ai épousé la princesse. Mais voyons, tu restais le dernier, et il n'y avait pas de princesse, protesta Barbe en broussaille. Sa voix déclina et il se tut, mal à l'aise. Impassible, le Seco regardait fixement le feu. Percival Delaney et Chauncey de la Rose échangèrent un coup d'œil. Sans hâte, dans un silence impressionnant, chacun de son bras unique aida l'autre à rouler et à ficeler son bardard. Et sans un mot, le baluchon à l'épaule, tous deux sortirent du halo de lumière émanant du foyer. En atteignant le haut du remblai de la voie ferrée, Barbe en broussaille rompit le silence. « Décidément, ce type-là n'est pas un gentleman, » déclara-t-il. « Tu as raison, il n'est pas de notre monde, » acquiesça Boule de Graisse. Glen Helen, Californie, 26 septembre 1916.